en jase. À Boulevard 102.1, Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
13h31 exactement, émission en jase jusqu'à 14h. Par la suite, c'est le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey. Mathias Turcotte devrait aller faire un tour dans le retour de Gravel avec un scrum, un point de presse improvisé du ministre de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard. Très comique parce qu'il n'a pas répondu aux questions finalement. Donc, ça va être à suivre. Et également, bien, on aura le podcast des grands événements avec Julie Lemieux sur le 400e de Québec à 14h15 enregistré avec Denis Gravel. Pascal, on en parlait. Donald Trump, de son côté, qui vient de faire une conférence de presse, il a dit à ses alliés « Hey, ça fait 40 ans que je vous protège, puis là, j'ai besoin de vous dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que vous allez enfin arriver pour venir m'aider? » Parce qu'il y a des pétroliers qui sont pris là-bas.
Oui, des pétroliers qui sont pris là-bas, mais il y a aussi des navires de cargaison. C'est le cas pour l'entreprise Dégagné. On lui avait parlé, entre autres, à Serge Le Guelec, il y a peut-être une semaine et demie. Il est conseiller principal du président du conseil et chef de la direction du groupe Dégagné. Il y a deux navires québécois qui sont coincés dans le golfe Persique depuis maintenant deux semaines. Le Rosaire A Dégagné puis le Miena Dégagné. Bon, on voulait un peu comprendre c'est quoi la gestion hein, de ce dossier-là en tant que compagnie quand on pense que c'est juste à l'international et c'est bien faux et ça mine énormément notre économie. On fait attention, j'ai l'impression aussi, dans les commentaires parce qu'on veut s'assurer que ça se passe bien, on veut pas être ciblé, mais on a pris des nouvelles des cargos bloqués avec Serge Le Guelec ce matin.
On est là depuis, ma foi, au moins un bon deux semaines là, depuis que c'est commencé. Mais remarquez bien qu'on avait toujours un navire qui était en attente de décharger sa cargaison. C'est le Miena Dégagné. Il est sur le point de rentrer au port pour décharger sa cargaison en Arabie Saoudite. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la température qui collabore pas.
Hey Pascal, pour réussir à gérer cette situation-là à distance dans un temps de guerre, il doit falloir être branché. Comment qu'on va chercher ces informations-là pour savoir quel bon geste poser, dans le fond?
Bien, comme tu vois, là, on a déchargé en Arabie Saoudite. C'était pas du tout là où on devait le faire parce qu'à un moment donné, il fallait que ça vienne à terre, cette marchandise-là. Ça demande beaucoup d'agilité. Ça demande d'être extrêmement branché à tout ce qui se passe en tout temps pour prendre les bonnes décisions. Puis encore là, c'est un peu un coup de dé.
En fait, je vous dirais, c'est la fluidité de la situation. Le profil de risque peut changer d'un jour à l'autre, dépendamment de là où on est. Alors, il faut rester très agile et très aux aguets avec les gens de terrain sur ce qui se passe, puis apporter des correctifs au fur et à mesure. Alors, vous avez vu qu'il y a des pays qui ont été attaqués par les autorités iraniennes. Il y a des espaces aériens qui ont été fermés, des espaces maritimes qui ont été fermés. Et ça évolue constamment. Pendant la période. Alors, il faut vraiment rester aux aguets et être capable de réagir rapidement.
Parce que la semaine passée, on disait qu'il y avait des mini qui avaient été installés pour être capables d'aller détruire des gros bateaux, des cargos du côté de l'Iran. Les États-Unis avaient vraiment levé la main pour dire que c'était épouvantable ce qui était en train de se passer là, que ça nous empêchait de faire du commerce. Aujourd'hui, ce matin, en fait, on autorisait à nouveau, du côté des États-Unis, les pétroliers iraniens à transiter par le détroit. On disait, allez-y, là, vous ne ferez pas attaquer. C'est un peu ce que Donald Trump avait choisi de mettre en place, mais ça reste que tout le monde est un petit peu sur le qui-vive, puis on ne sait pas trop si on peut faire confiance à notre ennemi là-dedans. Oui, on a le commercial avec Dégagné, puis on en parle en ce moment, mais il faut faire le clin d'œil sur tout ce qui est pétrolier. 20 % de l'approvisionnement pétrole au monde qui passe par là, puis au Québec, c'est 25 % du pétrole qui est importé de l'extérieur du Canada. On s'était fait dire, quand on jasait avec des experts la semaine passée, qu'il n'y avait pas vraiment d'assurance pour les compagnies.
En raison qu'on était en temps de guerre, si je me rappelle bien.
Oui, en zone de conflit. Et, mais il y aurait des nuances.
Il y a des assurances pour ce genre d'opération-là. Ce sont des primes additionnelles que les amateurs doivent régler. Maintenant, au regard, peu importe qu'il y a une assurance ou pas, on se met dans les souliers du marin qui est à bord du bateau. Et c'est évident que le profil de risque est plus élevé. Alors, les gens, à raison, sont plus préoccupés de la situation dans laquelle ils sont. Nous, on est en contact permanent avec le capitaine pour parler avec les équipages. On s'assure qu'ils ont tout ce qu'il faut à bord pour être capable de passer à travers cet événement le mieux possible.
Le diplomatique dans tout ça, Pascal, je me souviens, les gens qui étaient coincés disaient « Hey, j'ai pas été capable, moi, de parler avec les gens au Canada, l'ambassade, l'agence frontalière. » C'est la même chose pour eux. Ils ont-tu des difficultés à communiquer avec les gens là-bas?
Ça s'est beaucoup amélioré dans les derniers jours. On a des avancées dans les discussions diplomatiques. Encore ce matin, Donald Trump a décidé de leader un certain discours. Puis pour M. Le Gallet, qui travaille pour les entreprises de Gagné, c'est encourageant de voir qu'au moins on en parle.
D'attendre un protocole de sécurité pour être capable de transiter via le détroit d'Ormuz, mais qu'il n'y avait aucune indication à ce moment-là qu'il y avait des arrangements qui étaient pris. Vous avez vu effectivement qu'il semble y avoir des développements. Maintenant, il y a un nombre de parties qui s'y intéressent. On voit bien là, que la mécanique, les choses à mettre en œuvre pour que ça se concrétise, là, ça demeure à définir, mais je pense que le fait que les gens s'en parlent à tout le moins, là, c'est un bon pas dans la bonne direction.
Hey, j'aurais à chien en crime, moi, travailler sur un bateau à l'heure actuelle, pas toi?
Bien, c'est sûr que c'est vraiment loin d'être quelque chose qui ne va pas chercher de l'anxiété ou du stress. Mais pour cette entreprise-là, ils nous avaient très bien dit qu'on les avait fait longer des endroits qui étaient moins à risque, qui étaient okay. plus en eau occidentale. À l'intérieur même des bateaux, c'est super intéressant. Ils sont prêts un peu à tout, hein, à avoir soit plusieurs semaines à être coincés, rarement pour des conflits de cette ampleur-là, peut-être plus pour un bris ou autre. Mais malgré les discussions de ce matin, on reste très sécuritaire.
Pour l'instant, on a tendance à vouloir se tenir sur la partie occidentale du golfe Persique pour éviter de se rapprocher des endroits où c'est peut-être plus actif, non loin du détroit d'Ormuz. Et là, on sera vraiment en mode d'attente pour voir qu'est-ce qui se passe et de voir si les modalités finalement vont être rendues disponibles pour sortir. Mais je pense que c'est un jeu où il va falloir être patient et voir les choses. Malheureusement, il va falloir voir les choses venir.
Bon, on vient de parler d'assurance, de conversation diplomatique, de sécurité. Mais là, un navire qui est coincé comme ça, ça doit coûter une méchante pelletée d'argent, l'entreprise.
C'est la première chose hein, à laquelle on pense quand on se dit « Oh, c'est bloqué », puis là, on évacue le moment de sécurité. Là. Mais combien d'argent a été perdu? C'est dur à quantifier en ce moment.
Oui, c'est un petit peu trop tôt pour se prononcer, parce que vous comprendrez que on n'est pas en mesure de chiffrer quoi que ce soit pour l'instant, puisqu'on ne sait pas quand on va sortir du détroit d'Ormuz. On ne comprend pas l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble de la saison à l'international. Alors, je pense pas que je serai en mesure de vous donner un éclairage ici qui serait approprié.
Si on fait des parallèles avec un autre conflit, celui de l'invasion de la Russie en Ukraine, mm-hmm. il y avait eu beaucoup de dommages au niveau de l'inflation alimentaire. Hein. Au niveau mondial, en 2022, il y avait eu le blocage du blé. Tu t'en souviens, on en jasait ensemble avant le show. Et ça avait été très coûteux pour l'industrie alimentaire. Je vais faire des petits parallèles, OK, Jeff?
Hey, faites ça, ça m'intéresse.
2022, en alimentaire, c'était environ 30 % du blé, la part du commerce mondial qui était touchée. Là, en énergie, en 2026, c'est 20 % du pétrole. On est pas mal dans le même pourcentage.
Oui, c'est ça. On est dans des situations similaires.
La hausse initiale, c'était 40 % sur le blé en 2022. Potentiellement, pour l'essence, c'est 30 % en plus. Encore dans les mêmes pourcentages. Mm-hmm. Ça avait créé des problématiques, donc sur les prix alimentaires, quand on parlait du blé. Mais pour l'énergie, c'est pire. C'est une inflation qui est généralisée. Donc, autant au niveau commercial, en termes de transport, l'alimentation de vos voitures, mais aussi tout ce qui est transporté par pétrole, donc la nourriture, etc., on en parle, ça a un impact important, un impact géographique aussi. Avant, surtout les pays importateurs de céréales ont eu en 2022, se refaire. Je pense à Paris, l'emblématique croissant de Paris, l'emblématique croissant de la France. On importait énormément de blé de l'Ukraine. Il a fallu commencer à cultiver. Mais c'est pas demain la veille que t'en as, toi, du croissant à table quand tu commences à cultiver.
Pas demain la veille que t'as du pétrole chez vous aussi à extraire.
Exactement. Et ça, ce sera un impact global sur toutes les économies. Donc, ça va toucher transport maritime, production industrielle, agriculture, donc dans le carburant, dans l'engrais, l'électricité aussi dans certains pays. C'est une inflation énergétique et économique globale potentiellement plus large que l'inflation alimentaire mondiale qu'on avait connue en 2022.
Merci, Pascal. Très intéressant comme dossier. Merci pour le comparatif justement entre le blé et le pétrole. C'est très parlant. Puis on vient de parler d'entrepreneurship. On vient de parler avec un entrepreneur. Ben, tu sais que c'est le podcast Histoire d'entrepreneur ce soir?
Oui.
Avec Joanie Fortin, notre collègue de Weekend Radio. Ça va être disponible sur YouTube et les plateformes de streaming dès le lendemain. Et là, Pascal, c'est une personne que t'aimes beaucoup qui va être interviewée par Joanie.
Dis-moi.
Vanessa Babeau, des Cafés Sabah.
Ah oui, entreprise familiale. Elle, elle a repris l'entreprise des mains de son père, finalement.
Exactement.
Travaille très fort avec son conjoint.
Oui, café boutique emblématique du quartier Limoilou à Québec. Donc, l'entreprise qui a été fondée justement par Stéphane Babeau. Alors, c'est Vanessa qui sera en vedette du podcast Entrepreneur sur les ondes de Boulevard 101. C'est à 19h ce soir. Le podcast est une présentation d'équipe Marc-Antoine Reed, IG, gestion privée du patrimoine, planification financière et fiscale pour entrepreneurs. Votre conseiller vous met-il au cœur de votre plan? Si ce n'est pas le cas, rencontrez-en un qui fera équipe au marcantoinereed.com. Le Canadien de Montréal a perdu deux matchs ce week-end, Pascal, contre les Sharks et les Ducks. Ils sont au plus fort d'une course en série. On en parle dans un instant avec notre chroniqueur sportif Alex Laramin sur les ondes de Boulevard 101.